Josué chapitre 7, verset 1er, c'est notre dernière méditation sur cette thématique à la conquête de nos Jéricho. Nous avons déjà vu des grands principes spirituels. Je ne peux pas tout résumer, évidemment. C'est pour ça qu'il y a aussi un site internet. Vous pouvez tout retrouver au fur et à mesure si vous avez manquer un aspect ou un autre. Chaque message contenait un grand principe qui nous permet d'expérimenter une authentique vie de victoire face à nos Jéricho. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous un dernier message qui est en fait, non pas le résumé, mais qui va nous renvoyer aux cinq premiers. Et ce message, je l'ai intitulé « Retourne à Gilgal ». Et on lit ensemble dans Josué chapitre 7, verset 1er, après la victoire de Jéricho, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. La colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit « Montez et explorez le pays ». Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » 3 000 hommes environ se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et il perdit courage. Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, le symbole de la présence de Dieu, lui et les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière et Josué dit « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi est-ce que tu nous as fait passer le Jourdain à tout ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Ah, si seulement on était resté de l'autre côté du Jourdain! De grâce, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire au peuple maintenant qu'il a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Mais toi, que feras-tu pour ton grand nom? Amen. » Pour moi, ce passage est passionnant et bien qu'il se situe après la conquête de Jéricho, il est intimement lié, il y a des enseignements à en tirer. Alors, il y a dans le texte, même si ce qui est le plus connu, c'est le péché d'Achan. En réalité, il n'y a pas un problème dans ce texte, il y a deux problèmes dans ce texte. Et au risque de vous choquer, le péché d'Achan n'est pas le plus gros problème. Je ne dis pas que le péché n'est pas un problème. C'est une puissance, on le sait, c'est une puissance spirituelle. Vous savez très bien que le péché est une source de faiblesse spirituelle et une source de défaite. Il y a toujours des conséquences néfastes au péché, évidemment, pas seulement sur le plan personnel, mais aussi autour de nous. Ce texte nous permet de bien mesurer l'ampleur des conséquences du péché. Le péché attriste le Saint-Esprit, le Saint-Esprit étant attristé, ne peut plus donner la pleine mesure de ce qu'il est. Donc le péché n'affecte pas seulement celui qui pêche, mais il affecte aussi l'œuvre de Dieu. Et comprenons-le bien, frères et sœurs, nos échecs, tout comme nos victoires, ne concerne pas que nous. Nos échecs et nos victoires ont des répercussions dans la vie de ceux qui nous entourent. Nos échecs et nos victoires personnelles ont des répercussions dans l'Église. C'est inévitable. Il y a des liens de cause à effet. Le verset premier est clair. Il est dit « Les enfants d'Israël commirent une infidélité ». Humainement parlant, je dis « Non Seigneur, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les enfants d'Israël, c'est Achan. C'est lui le problème, ce n'est pas les autres ». Oui, mais c'est tout le monde qui a trinqué. Il y a des conséquences. Achan prit des choses dévouées par interdit. Il a pris des choses qu'il n'aurait pas dû prendre. Il les a convoitées. Il y a eu désobéissance. Il y a eu péché. Il y a eu des conséquences. Et lorsqu'il y a péché, il y a des répercussions sur l'ensemble du corps. Et là, on pourrait se dire, « Waouh, c'est dur !» On pourrait se dire, comment comprendre ça? Ben, ce n'est pas compliqué, hein. On va illustrer le corps spirituel avec le corps physique. Vous avez tous un corps, d'accord? Votre corps, on va faire quelque chose de très simple. Vous êtes en super forme, vous êtes en super santé. Vous me prêtez votre chaussure. Je prends un caillou et je le mets dans votre chaussure sur la voûte plantaire. Ah, vous pouvez avoir 25 ans, 30 ans, vous pouvez être le champion du 100 mètres. Il suffit d'un caillou. Et avec un caillou, votre corps ne fonctionne plus. Il suffit d'un petit virus. Il suffit d'une crise de foie. Il suffit d'un petit virus dans votre corps. Et c'est tout votre corps qui est au lit. Et vous êtes complètement KO. Et le corps spirituel qu'est l'Église souffre, peut souffrir aussi du péché ou des infidélités ou des interdits des uns et des autres. On a besoin d'en être conscient. Lorsqu'il y a péché, il y a nécessairement des répercussions. Ce texte le montre très bien, c'est très clair. Et parce que l'esprit est attristé, l'esprit ne peut pas donner la pleine mesure de ce qu'il est. Et donc, le corps spirituel qu'est l'Église se retrouve affaibli, en position de difficulté. Et puisqu'on parle de péché, je sais que ce n'est pas le moment que les gens préfèrent dans les méditations, mais bon, c'est biblique, il faut le dire. Le péché, ce n'est pas seulement le vol. Le péché, ce n'est pas seulement l'inconduite sexuelle. Le péché, ce n'est pas seulement les gros mensonges. Parce que nous nous revendiquons fièrement de ne plus être catholiques, mais inconsciemment, on a encore une classification des péchés. Hein. Une classification que Dieu ne fait pas dans sa parole. Le péché, c'est le péché. La fausseté, c'est aussi du péché. La duplicité, c'est aussi du péché. L'hypocrisie, c'est aussi du péché. L'hypocrisie, c'est « Ah oui, bonjour, oui, ça va, merci. Qu'est-ce qui m'énerve, il m'énerve. » Ça, c'est de l'hypocrisie. Eh bien, ça vous choque pas, vous y croyez pas. Le Saint-Esprit est attristé autant par un hypocrite que par une inconduite sexuelle. Le péché, c'est le péché. C'est nous qui mettons des classifications. Et quand Jésus dit « c'est du cœur de l'homme que viennent », la première chose qu'il dit, c'est les mauvaises pensées. Avant de parler des gros péchés, ce qu'on qualifie de gros péchés, Jésus dit « c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées ». Et ça, ça vient en premier, avant les adultères, les meurtres, etc. etc. La jalousie, l'amertume, la critique. Si seulement les gens pouvaient comprendre que la critique, c'est du péché, ça aiderait quand même. Hein. La médisance, les jugements acérés, les petites paroles assassines, vous savez, les petites paroles qui vous cassent bien, les murmures, on l'a entendu ce matin dans un don spirituel, le refus de pardonner, les affaires non réglées, l'esprit de parti, le légalisme, les querelles, les divisions, etc. etc., etc. Et bien souvent, désolé, hein, j'ai à cœur d'insister un peu là-dessus, mais parfois on a besoin d'être vraiment au clair sur ce qu'est le péché. Et toutes ces choses peuvent affecter le corps et l'affaiblir. Et au verset 12, on ne l'a pas lu, mais dans la réponse que Dieu va donner à Josué, il va leur dire « Le peuple, ils ne peuvent pas résister à leurs ennemis à cause de l'interdit. » Et c'est ça le problème. Ça les affaiblit, ça leur empêche de résister à leurs ennemis. Alors, il y a ce souci, oui, d'accord. Mais quelque part, au risque de vous choquer, pardon, c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est pas que Achan ait péché. Le plus gros problème, c'est que Josué n'a pas consulté Dieu. Le problème, c'est que Josué est parti, vous l'avez lu comme moi au verset 2, on n'y fait pas attention, mais c'est ça le problème de fond. Verset 2, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï. C'est-à-dire que Josué n'est jamais retourné à Gilgal. Plus tard, on va le voir, il va y retourner, et le peuple aussi. Mais en réalité, ici, Josué, on va dire comme un petit peu grisé par la victoire, quand on est dans une phase de bénédiction, vous savez, quand on passe par une période où on a remporté des victoires, où on est béni, où on sent que ça va bien, il y a moins de combats, il y a moins de pression, on a eu peut-être un exaucement de prière ou quelque chose, ceci, cela, et puis ça va un petit peu mieux, et bien excusez-moi de vous dire, vous n'êtes jamais autant en danger que quand vous êtes béni. C'est pas la bénédiction de Dieu qui vous met en danger. C'est votre réaction, c'est ma réaction face à la bénédiction. Quand je suis béni, c'est normal, je me relâche. Et Josué, il a remporté une grande victoire, et sur cette base-là, il est un petit peu grisé. Les choses vont bien dans ma famille, les choses vont mieux sur mon autre travail, j'ai eu 2-3 victoires dans tel ou tel domaine de ma vie, et qu'est-ce que je fais naturellement? Je me repose sur mes victoires passées. Vos victoires passées, frères et sœurs, quelle que soit l'ampleur ou la grandeur de votre victoire passée, même si elle date d'hier, ne peut absolument rien pour votre combat de demain. Demain, vous aurez besoin de retourner à Gilgal. Demain, vous aurez besoin de Dieu, comme vous en avez eu besoin pour vos victoires passées. Et là, Josué, sans s'en rendre compte, c'est humain, je ne le juge pas, on fait tous pareil. Josué a commis une énorme erreur. Il a envoyé des hommes depuis Jéricho vers Haï. Il est parti d'une victoire, d'une bénédiction, pour aller entreprendre autre chose. Et il n'est jamais revenu à Gilgal, tout au moins pas à ce moment-là. Il n'y a pas des moments dans nos vies où nous avons décidé que, où nous avons pensé qu'il fallait faire comme ça, nous avons pensé qu'il fallait aller là, nous avons pensé qu'il fallait régler tel problème comme ça. Nous avons décidé que, oh, on n'a pas oublié de demander à Dieu de bénir nos choix et nos décisions. Le grand magicien du ciel avec sa grande baguette magique qui doit bénir tout et tout le monde parce qu'il est amour et qui annihile toute ma responsabilité. On a bien pensé à lui dire, Seigneur, bénis mes choix, bénis-moi dans ce voyage que je fais, bénis-moi dans cette conquête. Et on aurait même pu légitimer ou spiritualiser la chose en disant, de toute façon, ils sont dans le contexte de la conquête du pays, c'est la volonté de Dieu. Ben, puisque c'est la volonté de Dieu, allons-y. Non, c'est pas aussi simple. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour vous montrer que je ne fais pas une interprétation particulière de ce texte, je vous rappelle simplement un exemple, il y en a d'autres dans la Bible. On se souviendra aussi de l'exemple de David. 1 Samuel 27 à 30. Un jour, David, alors qu'il vient de faire aussi l'expérience d'une grande délivrance, Saül le poursuivait, Saül en voulait encore à sa vie, Dieu lui fait encore grâce, Dieu lui montre encore qu'il le garde, qu'il le protège, qu'il n'a absolument rien à craindre tant qu'il est dans la main de Dieu, tant qu'il garde les principes de Dieu dans son cœur, tant qu'il pratique les sentiers de la justice, il n'y a pas de problème. Et 1 Samuel 27, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, David a une pensée purement humaine et il se dit, si ça continue comme ça, un jour Saül, il va vraiment m'avoir. Je n'ai pas d'autre choix que d'aller me réfugier au pays des Philistins. Et parce qu'à un moment, David ne consulte pas Dieu, il va aller voir le roi Achish, il va aller à Tsiklag. Et malheureusement, parce qu'on ne peut pas éviter les conséquences de nos inconséquences, ne nous moquons pas de Dieu. On ne peut pas éviter les conséquences de nos inconséquences. David a fait une expérience extrêmement douloureuse parce que le jour où il est rentré à Tsiklag, les Amalécites avaient fait une percée, ils avaient tout pris, tout détruit, tout brûlé. Et David s'est retrouvé non seulement sur des ruines, et en plus ses propres hommes ont voulu lui régler son compte. Alors ensuite, oui, parce qu'il y a repentance de cœur, parce qu'on revient à Dieu, parce qu'on se remet en question, comme Josué l'a fait, évidemment, la grâce de Dieu, je vous en ai parlé pendant 3 mois, la grâce surabondante et surprenante de Dieu a restauré Josué, a restauré David. Oui, certes, mais vous n'avez pas l'impression dans votre vie, moi dans la mienne je le sais, il y a des moments, il y a vraiment des douleurs que j'aurais pu m'éviter si simplement j'avais consulté Dieu, quoi. Pourquoi t'as pas consulté Dieu? C'est qui Dieu? C'est toi ou c'est lui? Et c'est humain, mais c'est terrible. Et il y a bien des échecs, des catastrophes, des dégâts dans les cœurs, dans les vies. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas consulté Dieu. Verset 2, Josué envoya depuis Jéricho des hommes vers Haï. Josué et le peuple sont partis de Jéricho et ils ne sont pas partis de Gilgal. L'erreur, c'est de partir d'une victoire pour aller vers autre chose sans consulter Dieu. L'erreur, ce serait de se relâcher, de se laisser aller, de se croire arriver, de croire qu'on a la force, de commencer à juger non plus les réalités spirituelles, mais à juger les réalités physiques, matérielles et terrestres. Jéricho, c'était une forteresse imprenable, fermée, barricadée. Ça leur a vraiment mis la trouille, excusez-moi l'expression. Et à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, ben, ils ont vraiment cherché Dieu à ce moment-là. Dieu a dit à Josué ce qui devait être fait, depuis la circoncision du cœur jusqu'au plan dans les moindres détails pour conquérir Jéricho. Et ils s'y sont soumis. Pourquoi ? Parce que derrière Jéricho, il y avait des forteresses spirituelles. Et après Jéricho, quand ils ont vu Haï, ils ont dit « Ah mais ça c'est rien, par rapport à ce qu'on vient de faire là, c'est rien du tout. Donc, allons-y. » Et on a vu le résultat, malheureusement. On a vu le résultat. Le diable est malin et il peut nous tenter dans ces moments-là. Quand je suis parti de l'église de Caen, j'ai eu à me battre contre une pensée. La pensée me disait... Avec ce que tu as traversé sur Caen, mon petit père, Manosque, ça va être une promenade de santé. Mais on ne peut pas juger au nombre, on ne peut pas juger à la difficulté des problèmes ou à la taille des montagnes ou à la taille des forteresses, parce que Josué a oublié que derrière Haï, il y a aussi une forteresse spirituelle. Et le problème, ce n'est pas le problème, le problème, ce n'est pas la taille, le problème, ce n'est pas le nombre, le problème, ce n'est pas qu'il y ait 200 000 habitants à Caen et 25 000 à Manosque, ou qu'il y ait 300 chrétiens à Caen et 100 à Manosque, ou qu'il y ait plus de problèmes dans telle ou telle église et pas dans l'autre. Il y a des principes et des réalités spirituelles. Et je ne peux pas partir d'une victoire, je ne peux pas partir de Jéricho pour aller vers une autre conquête, soi-disant plus facile, soi-disant plus petite. Et Josué et le peuple, avec ses conseillers, ils ont commencé à juger à l'apparence. Ils ont pu marcher par la foi, ils ont pu écouter Dieu, ils ont regardé les choses visibles, terrestres, extérieures. Haï, c'est une petite ville. Ces conseillers, eux, les premiers, ont plongé dedans. Ils ont dit, mais ne donne pas cette peine à tout le peuple. T'envoies 2 000-3 000 hommes. Et du coup, Josué a envoyé 3 000 hommes. Il a dû se dire, ouah, ils ont dit 2 000-3 000. Je vais envoyer 3 000. Je suis large. Allez. Ce qui devait être une promenade de santé est devenu un fiasco, un échec cuisant, parce qu'il n'a pas consulté Dieu. Et c'est aussi simple que ça. Le problème, ce n'est pas qu'il ait mal évalué la situation. Le problème, ce n'est pas l'histoire de nombre. Le problème, ce n'était pas l'apparence. Le problème, c'est qu'il s'est lancé dans cette affaire sans consulter Dieu. Je suis halluciné par le nombre de fois, frères et sœurs, où des chrétiens, dans les églises, des pasteurs, dans leurs églises, dans des situations diverses et variées, chrétiens ou pasteurs, comment on arrive aussi souvent à faire des choses pour Dieu, mais sans Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour faire sans arrêt des choses pour Dieu, mais sans Dieu ? Tu t'imagines que tu vas faire quoi que ce soit sans lui ? Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je dois m'en souvenir. Ma nature humaine a du mal. Mais les conséquences de mes inconséquences vont me le rappeler. Et Dieu, malheureusement, est devenu le grand absent de ce récit. Pour parler en généralité, il n'y a jamais des moments où vous avez expérimenté des grandes victoires et quelques temps après, vous vous êtes noyé dans un verre d'eau. Mais après, derrière ça, vous mettez la forme concrète que vous voulez. Combien j'ai vu de gens, malheureusement. Ah, Seigneur, bénis-moi dans ce nouveau travail, bénis-moi dans cette direction, bénis-moi dans ceci, ah, bénis-moi dans cela, ah, ça me plaît plus, eh ben j'arrête, terminé, allez, hop, je remballe tout, je vais là. Et puis, c'est quand la dernière fois que tu as soumis tes projets à Dieu ? Vous savez que Dieu n'est pas tenu de bénir ce dont il n'a pas pris l'initiative. Dieu bénit ce qu'il a initié. Mais ce qu'il n'a pas initié, il n'est pas tenu de le bénir. Combien de fois on a fait ça dans nos boulots ? Combien de fois on a fait ça dans nos sentiments ? Tiens, je vais vous raconter une anecdote, je ne l'ai jamais dite ici. Bon, ce n'est pas une anecdote, ça m'est vraiment arrivé. Je n'ai pas toujours consulté Dieu dans ma vie. Et je l'ai regretté amèrement. Mais il y a une fois où je bénis Dieu d'avoir vraiment consulté Dieu très sérieusement. Parce que je crois que après s'engager avec Dieu, après se marier avec Jésus, qui est la grande question de notre vie, la deuxième grande question de notre vie, c'est avec qui me marierai-je ? Ça n'intéresse personne ici, évidemment, donc je continue de me parler à moi-même. Avec qui me marierai-je ? Il y avait cette jeune fille dans le groupe de jeunesse où j'étais, à Montbéliard, avec elle on se connaissait, on était déjà très amis. Et cette jeune fille aussi, avec deux, trois autres gars, on était un groupe de jeunes sympas, et on s'entendait très bien. Et au fur et à mesure de cette amitié, de ces liens qu'il y avait entre nous, on était tous jeunes chrétiens, tous baptisés. Et puis, les sentiments commencent à venir pour cette jeune fille. Ces sentiments viennent pour moi. Et ça commence à devenir de plus en plus fort, et ça commence à devenir de plus en plus sérieux. Les autres autour finissent même par dire « Oh Stéphane, c'est évident, ça crève les yeux, arrêtez, ça se voit que vous êtes faits l'un pour l'autre, etc. etc. » Et tout le groupe de jeunes nous avait déjà mariés, organisé les fiançailles, blablabla. C'était une évidence, je suis chrétien, elle est chrétienne, forcément ça ne pouvait que marcher, ça ne pouvait que coller. Seulement, et j'ai vraiment consulté Dieu pour ça, et j'ai dit « Seigneur, est-ce que c'est elle qui doit partager ma vie ?» Et j'ai pris le temps devant Dieu, j'ai pris le temps qu'il fallait prendre pour que j'aie une conviction. Alors qu'en apparence, tout était évident, tout devait baigner. Elle était baptisée, elle était chrétienne, elle était engagée dans le groupe de jeunesse et moi aussi. Quelques semaines plus tard, on avait un week-end de jeûne à la Pentecôte. J'arrive auprès de mon groupe d'amis, mon groupe de jeunes copains chrétiens. Et puis j'arrive, je me souviendrai toute ma vie, je fais la bise au premier, je fais la bise au deuxième, je fais la bise à la troisième. Et quand vient son tour, je m'approche d'elle, je lui fais la bise. Et au moment où je lui fais la bise, le Saint-Esprit me dit « Non ». Il ne m'a jamais rien dit d'autre. Je lui ai fait la bise, je suis revenu en arrière. Elle était toujours aussi jolie, c'était une jolie fille. Elle avait toujours le même sourire. Elle était toujours à Jésus, elle était toujours engagée. Mais ce jour-là, dans mon cœur, j'ai su, je ne comprenais pas pourquoi, mais j'ai su ce jour-là que je ne devais pas aller plus loin avec cette jeune fille. Et le Saint-Esprit m'a dit non. Quelque temps plus tard, j'ai vu comment elle a commencé à construire sa vie sentimentale de soi-disant chrétienne. Et j'ai dit, merci Seigneur de m'avoir évité ça. Merci Seigneur de m'avoir évité, j'ai rien contre personne, de m'avoir évité cette famille. Heureusement que tu m'as mis dans la famille de Anne, parce que je ne sais pas ce que je serais devenu si j'avais été dans sa famille. J'ai revu cette jeune fille. J'ai revu cette jeune fille il y a en tout et pour tout quelques mois, l'année dernière, je l'ai recroisée à une certaine occasion. 27 ans plus tard, je l'ai recroisée, je lui ai dit bonjour. La seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est « Merci Seigneur ». Heureusement que je ne me suis jamais engagé avec elle. Et merci de m'avoir donné Anne. Voyez, frères et sœurs, c'est rien à dire comme ça, consulter Dieu. Mais on a tellement à gagner, ou malheureusement on a tellement à perdre, quand on ne consulte pas Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive, Josué ? Qu'est-ce qui se passe peut-être dans ta vie, mon frère, ma sœur ? Il se passe tout simplement que tu as oublié de retourner à Gilgal. Gilgal, c'est la position spirituelle vitale, indispensable, ce lieu béni où tu avais circoncis ton cœur, ce lieu où tu avais planté la croix de Jésus dans ton cœur, ce lieu béni où tu avais rencontré Adonai, ton Seigneur, ce lieu où tu vivais une réelle unité, où tu avais une véritable vie de louange, ce lieu, bref, où tu avais une vie chrétienne, une vie spirituelle digne de ce nom. Et si le peuple était revenu à Gilgal, les choses auraient été différentes. Si Josué avait consulté Dieu, Dieu lui aurait dit, n'y va pas tout de suite, vous n'êtes pas prêt. Ah bon Seigneur, pourquoi on n'est pas prêt? Vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a de l'interdit. Et il aurait pu régler le problème de l'interdit tout de suite, au lieu de se manger, excusez-moi, de se manger une grande tôle. Parce que c'est ce qui s'est passé. 36 morts ce jour-là. Et ça me rappelle un grand principe que j'ai partagé avec vous dans le troisième message. Je vous ai dit que Josué, comme nous, c'est indispensable. Il faut absolument mordre la poussière devant Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a pris un tel soin à faire mordre la poussière à Josué devant lui? Parce que c'est normal, nous sommes des créatures, nous fléchirons nécessairement toujours le genou devant quelqu'un ou devant quelque chose. Et Dieu dit, mieux vaut que ce soit devant moi plutôt que devant tes ennemis. Et le jour où Josué et le peuple n'ont pas fléchi le genou devant Dieu, ils ont de toute façon fléchi le genou. Parce que c'est humain, parce que le genou, mon frère, ma soeur, tu le fléchiras, c'est obligé. Personne ne reste droit dans ses bottes. Nous sommes des créatures. La créature, elle est faite pour adorer, elle est faite pour tomber. Et Dieu dit, vaut mieux que tu tombes devant moi, parce que celui qui tombe à mes pieds ne tombera plus jamais devant tout le reste. Et combien de chrétiens, et je le dis avec beaucoup de peine, sont tombés devant des tas de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore, même au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ne sont pas encore vraiment tombés aux pieds du Seigneur. Et si vous regardez Josué après la défaite d'Aï, sur ses genoux, il y est retourné. Il n'avait pas le choix. Il a fallu qu'il retourne et qu'il s'humilie à nouveau. Il a fallu qu'il retourne aux pieds de Dieu. Il a fallu qu'il fléchisse à nouveau les genoux. Il a fallu qu'il morde à nouveau la poussière. Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre. Il se recouvrit la tête de poussière. Pardonnez-moi, frères et sœurs, la poussière, on se la mange tôt ou tard. C'est obligé. Et Dieu dit, si seulement tu voulais le faire devant moi, ça éviterait tellement de problèmes derrière. Alors, Josué a dû tomber à nouveau sur sa face. Et si on va un petit peu plus loin, au chapitre 10 et au verset 8, une fois que Dieu a révélé le problème de l'infidélité d'Acan, une fois que Dieu a mis en lumière, une fois que le péché a été éradiqué, une fois que le problème a été traité à la racine, Josué, chapitre 10, verset 8, l'Éternel dit à Josué, en parlant de Haï, de ses habitants, « Ne les crains pas, car je les livre entre tes mains. » Et se reproduit alors le même schéma qu'avant Jéricho. Josué mort devant la poussière devant Dieu, et Dieu lui dit, je livre entre tes mains, je vous l'avais dit littéralement, en hébreu il a dit au passé composé, j'ai livré entre tes mains, c'est fait, t'inquiète pas, j'ai géré, j'ai remporté cette victoire dans le ciel, et maintenant je viens te la communiquer. L'Éternel dit à Josué, ne les crains pas, car je les livre, littéralement, je les ai livrés entre tes mains. Dieu ne cherche pas des conquérants. C'est lui qui fait les conquêtes dans les sphères spirituelles où il nous associe. Dieu ne cherche pas des conquérants. Il fait les conquêtes, il remporte les victoires et dans sa grâce, il les communique à ceux qui sont à ses pieds. Dieu ne cherche pas des conquérants. Dieu cherche des adorateurs. C'est le mot, l'un des mots clés de la vie avec Dieu, l'un des mots clés de toute cette parole, l'un des enjeux de toute cette parole, c'est l'adoration. Dieu ne cherche pas des conquérants, ne nous trompons pas. Dieu cherche des adorateurs. Ensuite, après cette nouvelle victoire d'Haï, il y a eu d'autres conquêtes, il y a eu d'autres combats, il y a même eu des combats plus rudes. On s'aperçoit que Josué et le peuple sont toujours retournés à Gilgal. En Josué 7, ils sont partis de Jéricho pour aller à Haï. Mais ensuite, fort de cet échec, Josué a changé d'attitude. Le peuple aussi, ils ont changé de comportement. Et ils sont toujours partis de Gilgal. Si on prend Josué chapitre 10, Josué chapitre 10, verset 6. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de... Comme par hasard, ils sont retournés à Gilgal. Ils sont retournés à ces position spirituelle vitale. Verset 7. Josué monta de... Ah, il n'est pas parti d'Aï. Cette fois-ci, il a compris. Il est retourné à Gilgal pour ensuite aller affronter autre chose. Et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes, ils sont tous retournés à Gilgal. Verset 8, l'Éternel dit à Josué, ne crains pas car, troisième fois, même expression, c'est du passé composé dans le texte original, je les ai livrés entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Verset 10, l'Éternel les mit en déroute. C'est Dieu qui combat pour nous. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours gérer des situations? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours se bagarrer et gérer des situations que Dieu a initiées? C'est lui qui a initié, c'est lui qui a ordonné. C'est à lui de gérer. Qu'est-ce que tu te fatigues? Tiens-toi au pied de Dieu, excuse-moi l'expression, mais laisse-le bosser. Laisse Dieu être Dieu. Tiens-toi à ses pieds, retourne à Gilgal et dans tes problèmes, mais laisse Dieu être Dieu. Bientôt, c'est le Seigneur qui va être à nos pieds et c'est nous qui allons combattre. Je comprends que ça ne marche pas. Verset 10, l'Éternel les mit en déroute. Seigneur, c'est toi qui as ordonné ça, c'est toi qui gères. Limite, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. L'Éternel les mit en déroute. C'est Dieu qui a combattu, c'est Dieu qui a géré le problème. Verset 15, Josué et tout Israël avec lui, là après cette fameuse nouvelle conquête, retourna au camp à Gilgal. En quelques versets, il est fait quatre fois mention de Gilgal. Si après, on va encore beaucoup plus loin et qu'on considère tous les récits de la conquête des villes du sud, verset 43, on s'aperçoit qu'il est dit « Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal ». Dieu, mes frères et sœurs, ne cherche pas des conquérants. Dieu cherche des adorateurs. Le problème qui est devant toi, quelle que soit sa forme, n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir quelle est ta position spirituelle. Est-ce que tu t'appuies sur toi? Même si tu as un super conjoint, est-ce que tu t'appuies sur ton conjoint? Est-ce que tu comptes sur tes victoires passées? Est-ce que tu comptes sur ton expérience? Est-ce que tu comptes sur l'Église? Parce que l'Église, il faut qu'elle soit tellement parfaite que forcément, elle doit tout régler et tout gérer pour toi. À moins que ce soit le pasteur, il faut qu'il ait une telle onction qui gère tout pour tout le monde. La question n'est pas de savoir si devant toi, tu estimes que c'est un grand problème, un petit problème, une grande montagne, une petite montagne, une grande vallée, un sombre désert, je ne sais. Le problème n'est pas l'extérieur, le problème n'est pas le visible, le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir quelle est ta position spirituelle devant Dieu face à cette situation. Et que tu sois aujourd'hui dans une situation d'échec, quelle que soit la forme de ton échec, quelle que soit la sphère de ta vie dans laquelle tu es dans l'échec, que tu sois dans un échec ou que tu sortes peut-être depuis quelques jours d'une grande victoire, de toute façon, il y a une chose logique, spirituelle à faire en tout état de cause, c'est qu'il faut sans cesse retourner à Gilgal, sans cesse retourner à ce lieu où tu engages ton propre cœur, où tu considères la puissance de la croix pour ta vie, dans tes circonstances, où tu considères ta position spirituelle au pied de Adonai, ton Seigneur, pas ton faiseur de miracles, ton Seigneur et ton Maître. La question c'est, est-ce que tu vas retourner à Gilgal ? On peut se recueillir, s'il vous plaît ?